et qui surgissent de la scène des volcans.
Pamela,
on a tombé la chemise.
Pamela,
oui, moi j'ai tombé la chemise.
Allez, la deuxième, 20 secondes, quand vous voulez, top, c'est parti.
Ouais, ouais. Allez, c'est parti, le chrono. Oh là là, il va brûler, mon ami Vincent.
Bon, le voyage en Méditerranée, il est gagné. Il y en a pour combien, là?
Oui. Et il y en a pour 29 253 francs.
Vous avez gagné pour 30 000 francs de cadeaux. Il en reste encore deux.
Salut à tous et bienvenue dans notre chronique des composants. Je suis Guillaume Vendée et nous sommes le vendredi 6 août 1999 et je suis évidemment accompagné de mon compère Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Bah salut, comment ça va? C'est les vacances?
Écoute, ça va super bien. Bah tu sais, l'été c'est toujours génial. C'est les périodes où il y a pas cours, on peut un peu tout oublier. Donc moi j'adore ça. Et puis bah c'est sympa parce que je crois qu'on avait fait ça déjà un peu l'été dernier et même l'année d'avant si je dis pas de bêtises. On avait commencé à enregistrer nos émissions et puis on garde nos cassettes comme ça, on les collectionne. Bah on s'est dit qu'on allait se bloquer un petit peu de temps pour parler de nos passions du moment, des nouvelles technologies.
Absolument, bah oui. Bah, c'est l'été, c'est vrai, il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est les grandes vacances avant le départ. Hein. Ça va être une période de changement pour moi, un petit peu, une période de transition.
Ouais, ouais, bah, qu'est-ce qui va t'arriver? Dis-nous tout.
Là, je vais partir à Marseille pour les études l'année prochaine.
D'accord.
Et, ah ouais, d'accord. Nouveau truc, nouveau diplôme, nouveau PC probablement, parce que le mien commence à ramer sérieusement.
D'accord.
Et voilà, quoi. Donc, ouais, là, il y a. Bah, je sais pas, on a cherché une place en CTU, tout ça. Et puis bon, bah voilà, ça y est, on en a une, donc c'est bon, on peut se détendre un petit peu, donc voilà, il a fait assez chaud, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, le ciné s'est climatisé, je suis allé me faire quelques ciné, là, pour...
Ah ouais, toi aussi, c'est bon, ça. T'es allé voir Matrix, forcément.
Ah mais oui, alors, il est sorti en juin, hein, mais il doit peut-être encore être, enfin, il a tellement de succès, il doit peut-être encore être à l'affiche. Ouais, Matrix, ouais. C'était la claque de l'année, ouais, clairement, ça, c'est hallucinant, quoi. Tu l'as vu, en fait, ou...
Ouais, alors moi, je l'ai vu, et j'en discutais avec des copains juste après, on prenait le temps d'en parler, parce que ça nous a vraiment marqué. Je crois que, justement, il y aura un avant et un après ce film, en termes d'effets spéciaux, enfin, on voit bien qu'on est dans le futur. Je sais pas s'ils pourront aller encore beaucoup plus loin en termes de qualité graphique, quand on voit les ralentis qu'il y a, mais ouais, il y aura un avant et un après, non?
Ouais, mais carrément, il y a des effets complètement inédits. Le bullet time, j'avais jamais vu ça. Je crois que c'est vraiment la première fois qu'on fait ça au ciné, quoi.
C'est fait avec plein de caméras, je crois, qui sont alignées tout autour de la personne. C'est dingue, hein.
C'est plein d'appareils photo, même. C'est des appareils photo. Parce que je crois qu'ils avaient des problèmes avec les caméras. Je crois que c'est que des appareils photo qui prennent des photos très très vite. Et il y a des dizaines, peut-être même une centaine d'appareils photo tout autour de Keanu Reeves. Et quand par exemple il fait un truc, et après il recompose. C'est un boulot de malade. Non, vraiment, c'est incroyable, quoi. Et puis le scénario est vraiment génial. Enfin, tout est excellent, quoi. Matrix, c'est vraiment le film de l'année, quoi.
Est-ce que tu penses qu'il y aura un 2?
J'espère en tout cas. aussi bon que le 1, franchement, j'espère.
Bon, t'es allé voir d'autres choses au ciné un peu ou pas?
Ouais, je suis allé voir d'autres trucs. Je suis allé voir Sex Intention. Je vais peut-être aller voir Blair Witch par curiosité. Tout le monde en parle. Je sais pas si t'as vu ça, ça a l'air.
Alors, ouais, il y a beaucoup de monde qui en parle. J'ai un peu peur d'y aller pour tout te dire.
Ouais, écoute, non, enfin, moi j'ai pas trop peur d'y aller. Mais bon, de toute façon, ça va être très dur d'égaler Matrix. Même si Star Wars épisode 1 est pas encore sorti, hein, mais j'ai une scoop parce que je l'ai déjà vu.
C'est pas vrai, t'as fait comment?
Ah, écoute,
il est pas sorti encore.
Non, il est pas sorti. Tu le gardes pour toi. Ça.
Tu veux que je mette pause sur l'enregistrement ou quoi?
Ouais, vas-y, mets pause parce que là.
Alors attends,
on sait jamais.
Vas-y, dis-nous tout maintenant.
Écoute, mon père connaît un gars, tu sais, c'est toujours qu'il connaît un gars, quoi, hein, qui l'a téléchargé. Il a téléchargé le film, il l'a gravé sur CD-ROM. C'est pas une blague.
Excellent, hein. Sur CD-ROM, c'est bon ça. Oui, en fois combien?
Bah écoute, je sais pas, en tous les cas, aux États-Unis, c'est que le film est sorti en mai, et il sera qu'en octobre chez nous. Alors, bah, il y a un gars qui l'a filmé au caméscope numérique, sans doute, hein, tu sais. Tu sais, ceux qui ont les cassettes mini DV, là.
C'est vous,
et puis bon,
ça.
Ensuite, bah, il l'a envoyé sur un serveur et ça circule maintenant. Alors, avec mon modem, c'est sûr que je vais pas télécharger, ça fait le gigaoctet, hein. Ouais. Mais, si t'as une connexion pro, bah, ça pourrait se faire, hein. Déjà, en numérique, voilà, tu vas t'en sortir à moins d'une vingtaine d'heures. Ouais. Bref, je l'ai vu. Alors bon.
Ah, et alors, c'est quoi? Il y en a beaucoup qui disent que ça vaut pas les Star Wars de l'époque, quoi.
Franchement, j'ai du mal à dire parce qu'il faut que j'aille le revoir. Parce que bon, déjà, c'est en anglais.
Ah.
C'est pas sous-titré. Ouais. Bah oui, c'est la version US, quoi. Ouais. Donc en anglais, pas sous-titré, j'ai pas.
Faudrait
compris.
Que tu t'amuses à les sous-titrer toi-même. Je sais pas si on peut faire ça aujourd'hui.
Je sais pas comment on pourrait faire ça. Franchement, j'ai pas d'outils pour ça, quoi. Alors, c'est pas d'une qualité vidéo fofolle en plus, hein. C'est moins bon que du VHS. Ah ouais, parce que c'est du vidéo CD. Alors tu sais que la vidéo sur disque, hein, il y a les laserdiscs, hein, tu connais. Hein, c'est,
ouais. On en a parlé ensemble, ouais.
Bah, j'en vois plus des masses, hein. Faut dire que le laserdisc c'est quand même cher, c'est un truc de bourgeois. Hein. Et puis c'est uniquement analogique, en plus, c'est pas du dessus, il y a un signal qui est codé, voilà, quoi, comme sur un CD, mais ça sort de l'analogique, il n'y a pas de compression, quoi, comme sur un ordinateur.
Ouais.
Alors tu sais que moi on utilise QuickTime là, par exemple pour relire les sous 95, mm-hmm. pour relire des vidéos sous 98, pour lire des vidéos qu'il y a dans les magazines, dans les CD des magazines, tout ça, c'est compressé en MPEG. Et il paraît qu'en Asie, ils ont le vidéo CD. D'ailleurs, c'est dans ce format que j'ai eu ma copie pirate de Star Wars, c'est un vidéo CD en fait. Il installe un logiciel et hop, ça lit le MPEG direct. Alors bon, il faut deux CD, évidemment, parce que forcément, c'est une heure à peu près, il y a à peu près une heure sur chaque CD, donc tu dois changer le CD, et moi j'ai dû changer au plein milieu de la course de pod, ça casse un peu le rythme. Alors laserdisc aussi, tu dois retourner le disque, hein, donc c'est pas mal, quoi. Après, évidemment, la qualité, c'est pas ça, c'est quand même beaucoup plus petit qu'une cassette, hein, un truc CD, donc c'est quand même assez génial, je trouve, comme dans le principe, tu vois, tu peux avoir un disque sur lequel t'as comme ça un film entier, c'est vraiment pas mal. Alors bon, évidemment, la qualité, c'est nul. Comparé à un laserdisc en particulier, c'est vraiment nul, ou même une bonne cassette, hein, d'ailleurs. Et bon, voilà. Franchement, j'ai eu un avant-goût du futur, puisque tu sais que le DVD arrive. Enfin, le DVD est là, même s'il n'est pas encore chez moi. je sais pas si t'en as un, mais je peux pas.
Non, non, je suis pas encore équipé.
Ouais, c'est trop cher, les platines.
Mes parents, ils veulent pas, de toute façon. Ils disent ils comprennent pas l'intérêt, il y a déjà un magnétoscope.
Ouais, ben je peux comprendre parce que sur Magnétoscope tu peux quand même enregistrer des trucs, les DVD tu peux pas, quoi. Donc c'est quand même un gros handicap, je trouve. Mais bon, le DVD je veux bien essayer. Alors bon, peut-être quand j'aurai une tour, parce que les platines sont super chères, mais tu peux en caser un dans ton PC pour 1700 francs, quoi. Moi je l'ai vu passer à 1700 balles.
Ça commence à être intéressant, ça se réfléchit, ouais.
Ouais. Alors il faut une carte de décodage, hein, parce que pour le MPEG 2. Parce que tu sais que le MPEG compresse bien, le MPEG, il compresse de manière assez maligne. Tu sais comment ça marche? En gros, ça marche comme ça. Le MPEG, ça prend les images, ça les découpe en petits carrés, et puis après, ça regarde comment les petits carrés bougent d'une image sur l'autre.
Des paquets de petits carrés qui bougent dans la vidéo, quoi.
Exactement. Et donc,
au lieu d'avoir
à traiter
chaque petit carré, ils font des paquets de carrés, quoi.
C'est ça. Et les carrés, ils se déplacent. Donc, ça fait des petits vecteurs. Ils codent les vecteurs. Et après, évidemment, c'est jamais exactement ça, quoi. Mais disons que, entre le petit vecteur et la réalité, il y a un résidu. Et ce résidu, en fait, il est codé de manière, il est encodé, mais pas complètement. Il est encodé, puis on vire les trucs de plus haute fréquence, qu'on vire les trucs, les petits détails. Et en gros, ça marche comme ça. Alors, c'est pour ça que du coup, t'as quand même des carrés mastoc parfois qui apparaissent comme ça. C'est pas très très joli. Alors que bon, c'est vrai que la VHS, ça a tendance à être flou. Alors que le MPEG, ça a tendance à faire des gros carrés, quoi. Donc, c'est pas terrible. Et puis bon.
Ouais, quand il y a des grosses actions, quand j'imagine que quand il y a des courses-poursuites, comme ça, des explosions, on doit voir les gros paquets, quoi.
Ouais, parfois, tu vois les paquets, carrément. Hein. Puis, c'est assez sombre. En plus, la version que j'ai, moi, c'est quand même assez sombre. Il y a des fois, il y a des artefacts comme ça, tu vois des carrés un peu qui se baladent. C'est pas génial. En plus, bon, c'est du 320x240, hein. C'est des débits de 1,2 mégabits par seconde. Donc c'est correct, mais bon, évidemment, ça peut pas faire des trucs de ciné, quoi.
Alors, du coup, tu craches dans la soupe, tu vois quand même Star Wars avant qu'il sorte en France, quoi.
Ouais, mais t'as raison. C'est vrai que c'est quand même, franchement, c'est quand même sympa, je peux me la péter.
Faudra que tu me montres ça, tu pourras me,
ouais,
tu crois que tu pourras me le diffuser ou...
Ouais, je fais pas ce carrément, ouais, les CD,
je suis pas sûr que je vais le lire, hein, par contre. Enfin,
ton PC,
peut-être diffuser chez toi.
T'inquiète, surtout si mon PC y arrive, le tien y arrivera aussi. Le MPEG, ça passe encore. Le MPEG 1, ça passe. Le MPEG 2, non, par contre.
Ah.
Et le MPEG 2, c'est prévu pour des bonnes qualités vidéo, tu sais, des hautes résolutions, et ça ça va supporter les formats de vidéo entrelacés aussi pour les télés, parce que là, le MPEG, ça supporte que le progressif, c'est prévu pour aller sur des PC, quoi, ouais. Sur des ordinateurs. Puis ça va supporter le son multicanal, le très haut débit, et puis là, à l'heure actuelle, si tu veux décoder un MPEG 2, un DVD, quoi, bah, il faut un PC de monstre, hein. C'est-à-dire, style, ouais. Tu vois, un Pentium 2 à 450 MHz, quoi.
Oh, non, laisse tomber, ouais. C'est pas possible, ça. Ouais.
Alors, pour le décoder, ou alors il faut une carte PCI qui s'en occupe, quoi, une carte qui s'occupe spécifiquement de ça. Mmh. Une platine, en gros, ça fait une platine dans ton PC, quoi.
Ouais, si t'as une place dans ta tour, tu peux y glisser ça, quoi.
C'est un emplacement PCI. Okay. Après, bon, le plus gros plus du MPEG 2, on va pas se cacher, c'est la protection contre la copie. Parce que bon,
ça va les intéresser, ça.
Et ouais, parce que moi, mes vidéos CD, les trucs que tu trouves en Chine, n'importe quel PC peut prendre une vidéo disque, une vidéo CD comme ça et le dupliquer, quoi. Ça, c'est pas très bon pour les affaires. Hein. On a l'habitude.
Ouais, je sais pas s'ils vont beaucoup se battre contre ce genre de choses, parce que finalement, ça fait monter un peu la hype autour des œuvres, autour des films, et puis finalement, la qualité sera jamais aussi bonne qu'au ciné. Donc, si tu veux, je suis pas sûr qu'ils se battent beaucoup finalement.
Bon, c'est pas clair. C'est vrai que c'est pas idiot, hein. D'ailleurs, moi, j'ai vu Star Wars en avant première.
Ah, et tu vas aller le voir au ciné quand même.
Bah ouais, je vais retourner le voir parce que bon, ouais, franchement, ça, c'est quand même, voilà, je l'ai vu, mais j'ai pas tout compris, c'est très moche. Bon, voilà, il faut quand même pas déconner, quoi. Donc finalement, le MPEG, c'est quand même pour les vidéos basse def, ça fait des fichiers compacts, mais bon. Voilà, quoi. Le MPEG 2, par contre, ça, on ne sait pas, parce que le MPEG 2, ça va donner de la grosse qualité, des fichiers énormes, hein, d'où le DVD. Ouais. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que depuis 1994, les gars de chez MPEG planchent sur un standard ultime pour tous les profils qu'ils appelleront le MPEG 4.
Ah c'est ouais, pas du tout ce que ça donnera. Ça en ligne de mire quand même.
Ouais, on sait pas du tout ce que ça donnera, mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite, quoi.
Bon, il y a du boulot, c'est cool. Écoute, en tout cas, ça c'est la vidéo. Est-ce que t'as prévu d'emmener, comment tu vas faire pour écouter de la musique aussi à Marseille quand tu vas partir? Parce que t'as ta collection complète là. Je sais que t'es toujours aussi fan de musique. Comment tu vas faire?
Écoute, moi mini disque. Hein, de toute façon, moi je suis un aficionado du mini disque. Bah ouais. Alors bon, je sais où tu veux en venir parce que c'est là, il pense vraiment.
Bah oui, tout le monde en parle. Est-ce que tu vas passer un lecteur MP3?
Il y a un petit truc, il y a un truc qui pourrait rester du MPEG première version, c'est la couche audio, c'est vrai, c'est le MPEG Layer 3, de la troisième couche. Ça devient populaire. Alors à la base, c'est vrai qu'il y a trois couches pour le MPEG, pour l'audio, pour la version audio. Alors les couches 1 et 2, c'est prévu pour les débits qui sont un peu supérieurs. Et en fait, le décodage est moins compliqué, donc ça prend moins de temps machine. Donc la couche 3, c'est elle qui se destine au web avec des débits plus faibles. Et donc elle est plus complexe parce qu'elle compresse plus. Et donc on a des améliorations comme ça qui font qu'à 128 kilobits, bah, t'as une qualité proche du CD, alors que t'as 10 fois moins de données, quoi, globalement. Et c'est assez marrant, c'est un codage perceptuel.
C'est quoi, ça, perceptuel?
Bah, c'est un peu comme le JPEG ou le MPEG, c'est-à-dire pour le son. Mais donc, ça, en gros, ça marche comme ça.
En tout cas, il compresse là où il pense qu'on n'arrive pas à voir les petites variations, quoi.
Exactement. Tu sais que on n'entend pas de manière équivalente toutes les fréquences. En gros, on entend très 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 bien les fréquences qui sont autour des fréquences de la voix humaine, quoi, voilà, ça on entend super bien, puis après ça descend, quoi, ça descend dans les hautes fréquences, et puis ça descend dans les basses fréquences. Du coup, globalement, ce que fait le MPEG 3 pour aller très très vite, c'est il prend le signal audio, il le découpe en petits morceaux, des frames, donc c'est des petits morceaux de son, quoi, et ces tranches. Petits morceaux de son, il en prend la transformée de Fourier inverse. Et donc en gros c'est la représentation en fréquence, et cette représentation en fréquence, enfin en temps fréquence, ce qu'il va faire, c'est qu'il va virer globalement les fréquences les plus hautes, il va coder mieux les fréquences les qu'on entend le mieux, il va coder plus faiblement, voire dégager les fréquences les plus hautes qu'on n'entend pas. Et en faisant ça, bah, évidemment pour une oreille humaine, bah, forcément la perception c'est pas très très différent, vu que l'essentiel est sauvegardé. Par contre, le reste, ce qu'on entend le moins bien, bah, c'est codé moins bien. Du coup, c'est perceptuel, puis ça s'adapte à notre perception, quoi. Donc, c'est quand même vachement malin. Ça, je dis pas le contraire. C'est vraiment super, super rigolo. Bon. J'ai téléchargé une chanson de démo sur mon PC. Alors, c'est gérable, là. Ça prend 10 minutes, ou 15 minutes. Voilà, ça va. C'est bluffant. Ça marche bien. Mais bon, moi,
ça va vite quand même, non? 10-15 minutes. Non,
bah, c'est passé super bien compressé. Ouais, c'est en 128 kilobits par seconde, c'est globalement 1 mégaoctet à la minute.
Ouais, d'accord.
Pour une minute de musique, je veux dire.
Ouais.
Et oui, et du coup, bon, bah, mon CPU est bien occupé. Alors, pour moi, mon pauvre petit 486DX4, là, il commence à être un petit peu
limité. Il souffre.
Ouais, il souffre un peu avec l'MP3. Il y arrive, mais enfin, c'est vrai que tu sens que. Bon, voilà. Et bah, du coup, le MP3, c'est vrai que ça pourrait devenir un format audio. un peu universel numérique. Il y a plein de constructeurs, comme Rio par exemple, qui annoncent des petits baladeurs où tu mets tes chansons sur carte mémoire. Alors évidemment, ouais, c'est tout petit, bon, bien. Mais moi, j'y crois pas trop, parce que moi, je sais, j'ai mis les disques et je sais que c'est l'avenir, quoi. C'est largement mieux. Dans tes baladeurs, déjà, il y en a qui sont à 32 mégas de trucs. Alors sur 32 mégas, je t'ai dit tout à l'heure que c'était à peu près 1 méga la minute. 32 mégas,
ouais,
tu mets
ouais,
même pas
ça
d'album.
Ça fait pas tant de chansons que ça, ouais.
Mais ouais, c'est nul. Tu mets même pas d'album sur ton truc. Ouais. Bon, alors quand tu veux changer, en plus, qu'est-ce que tu fais? Il faut te brancher un PC. C'est nul, alors que c'est si simple de changer de disque.
Ouais, et puis en plus, comment tu ferais pour récupérer de la musique? Enfin, si tu dois te connecter en permanence à Internet pour récupérer de la musique, on s'en sort pas, quoi.
Non, on s'en sort pas. Alors que moi, je peux télécharger sur mon mini disque. J'ai besoin de rien d'autre que mon baladeur. Hein. Je peux changer de disque. Je peux enregistrer avec un câble et soit un micro. Je peux t'enregistrer toi. Je peux nous enregistrer nous. D'ailleurs, peut-être qu'on fera ça la prochaine fois. Non,
ouais, on fera ça l'été prochain si on fait une émission encore. Ouais.
Mais ouais, la qualité est géniale. Il faudra juste que je prenne un bon micro. Et puis bon, bah après, sinon, je prends un câble optique et boum, je peux transférer complètement un CD sur mon mini disque et c'est bon, quoi, tu vois. Alors pour encoder du MP3, accroche-toi, quoi, il faut un gros CPU et c'est pas du tout en temps réel.
Ouais.
Donc bon, même avec 64 mégaoctets, le baladeur MP3, comparé à un mini disque, c'est nul.
Ouais, donc si les gens passent un petit peu à creuser derrière la hype, ils vont peut-être se rendre compte de ce qui se cache derrière et de l'entourloupe qu'il y a derrière le MP3, quoi. Et du coup, alors, il y a beaucoup qui parlent de Winamp pour lancer la musique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te plaît, Winamp? T'aimes bien?
Ouais, bah Winamp, c'est pas mal. Bah, c'est ce que j'ai utilisé. C'est assez... Bon, ça marche bien, effectivement. T'as plein de... comment ça s'appelle? T'as plein de skins et tout. C'est assez rigolo. Par contre, il y a quand même un truc avec le MP3 qui est cool, c'est que ça relance la radio libre, mais à l'échelle mondiale, quoi, et à l'échelle des particuliers. Enfin, il y a un truc qui s'appelle Shoutcast dans Winamp,
ouais,
qui est génial, quoi. Le principe, c'est que tu lis via Winamp un fichier MP3 qui est donc sur un serveur distant. Donc, tu écoutes la musique qui est diffusée sur un serveur, mais c'est un serveur privé. N'importe qui peut faire un serveur Shoutcast.
D'accord, ok. Donc ça veut dire que là, en gros, imaginons qu'on ait une connexion Internet de fou, on pourrait là diffuser ce qu'on est en train de se dire pour que quelqu'un l'écoute sur Winamp, quoi.
Exactement, c'est un peu comme si
génial.
N'importe qui pouvait faire de la radio. C'est quand même assez énorme.
C'est top. Ouais.
Bon, c'est en direct, hein. Faut pas rater les émissions qui t'intéressent, quoi. Mais bon, qui sait, un jour peut-être, on pourra écouter des émissions en radio à la demande et peut-être même où on veut avec un baladeur MP3, tiens, on va savoir.
Ouais, ouais, ou sur mini-disque, quoi. Enfin, non, on pourra pas diffuser en showcast sur mini-disque, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoute, super. Alors, il y a un autre truc dont j'ai entendu parler pas mal là, dans le monde de l'informatique. A priori, il y a plein de gens qui se plaignent d'avoir plein de types de câbles différents pour brancher tous leurs périphériques. Et il semblerait que là, il y a l'USB qui se généralise et qu'en gros, enfin, il y en a même qui disent que l'USB c'est l'avenir avec ce mode de branchement. Là, ça va être pour tous les périphériques demain. Tu y crois, toi?
Ouais, bah, pour le coup, un peu plus. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, autre signe que mon PC est une vieille poubelle, il a pas d'USB. Alors que ouais, tout le monde, tout passe en USB, quoi. Tu vois, t'as commencé à avoir des souris, des claviers, des joysticks, des lecteurs de disquettes. Il y a des modems aussi en USB. Moi, je suis toujours en port série hein, depuis. Hein. Ouais. Bon, les appareils photo numériques aussi. Il y a même les premières imprimantes. Donc même le port parallèle, apparemment, risque de pas y survivre. Alors toutes les marques s'y mettent, les ports séries et parallèles sont passés de mode. Alors moi, c'est vrai que j'avais un doute au début parce que je me disais quand même le port USB c'est du série à la base, alors que bon les ports parallèles ça me paraissait plus rapide, tu vois, même si c'est quand même beaucoup plus gros. Cela dit, ils compensent parce qu'en ayant quand même un débit important, en ayant une fréquence de fonctionnement, enfin je veux dire, ils passent des trucs de manière relativement rapide quand même, quoi. Alors bon, par contre, il y a un truc qui est bizarre. Bon, c'est des câbles qui sont plus petits, plus légers, des prises plus petites. Franchement, c'est assez cool. Je trouve ça vraiment bien. Mais je sais pas si t'as déjà vu une câble USB. Ils ont mis un sens, c'est con. Tu sais jamais si c'est bon ou pas.
D'accord, tu dois le tourner s'il est pas correctement mis, quoi. T'as pas de petits trous et de petits pics pour savoir où le mettre.
C'est pas du tout clair,
quoi.
C'est pas du tout clair. Un coup sur deux, tu te plantes quand tu branches ton truc. C'est vraiment chiant. Bon, je pense que c'est une erreur de jeunesse et que ça sera réparé rapidement. Hein, c'est dans l'année ou les deux ans qui viennent, quoi. Mais bon.
Ouais, il suffit qu'il repense un peu le truc pour qu'on puisse le brancher dans les deux sens. Ça devrait vite arriver, effectivement.
Oui, bah oui, quand même. Bon, parler d'USB, ça me fait penser à Apple. T'as vu le dernier portable iBook? T'en penses quoi?
J'ai vu ça sur un magazine là dans la salle d'attente du médecin et écoute, enfin je me suis dit au début tiens c'est marrant, ils sortent le catalogue de jouets de Noël et ils nous font des jouets un peu futuristes pour les enfants type ordinateur et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout des jouets pour enfants. C'est hallucinant cette histoire.
Ouais, c'est une machine sous PowerPC G3, c'est un 12 pouces 800 par 600 l'écran. Il y a 32 mégas de RAM et une carte TTI, un disque dur de 3,2 gigas, donc c'est une machine qui est très raisonnable. Hein. Ouais, vraiment, c'est pas mal, quoi. Alors, le truc, c'est que c'est un jeu.
Et c'est pas pour les enfants, hein, tu confirmes.
Ouais, malgré le look, ouais. Bah, ça coûte quand même 1 600 $, quoi.
Ou alors, c'est pour des enfants très, très, très fortunés, quoi.
Ouais, ça doit faire dans les 13 ou 14 000 balles, je sais pas exactement, quoi. Je sais pas quel est le cours précis du dollar en ce moment, mais ça fait assez cher. C'est un joujou de 3 kilos aussi, quand même, hein, mais il a quand même une particularité intéressante, c'est qu'il a un seul port USB.
Excuse-moi, tu dis 3 kilos, mais moi, enfin, quand je compare avec mon TO8, avec son écran et toute sa console, etc., enfin, je pense que ça pèse plus de 3 kilos, non ?
Ouais, mais après, si tu compares par
rapport... Je compare des chevaux des carottes, peut-être.
Bah, disons qu'il a l'air léger, il a l'air mignon, mais en fait, il fait le prix d'un il fait le poids d'un portable standard, quoi.
D'accord,
c'est
ok.
C'est tout ce que je voulais dire. Mais t'as raison, il n'est ni si lourd, ni si léger, en fait. Il est dans la norme, quoi, globalement. Et donc, c'est vrai qu'il adopte l'USB, évidemment. Il adopte même que l'USB, je crois. Il y a que ça. Il y a que un USB.
Alors, ça, c'est Apple, ça.
Ouais, c'est... C'est assez marrant. Enfin, bon, après, voilà, faut croire dans le standard. Au début, tu vas avoir des emmerdes parce que tu pourras rien. pas connecté grand chose dessus, mais peut-être que dans l'avenir ça sera pas mal. Pour l'instant, je suis un petit peu sceptique, mais bon.
Bon, on verra. En tout cas, le look, franchement, il va falloir faire des choses un peu plus sérieuses que ça, parce que je pense pas que les gens aient envie de se balader à montrer des appareils comme ça pour de l'informatique qui ressemble à des jouets. En tout cas, il y en a qui parlent de la possibilité, peut-être demain, d'arriver à se connecter à Internet tous les jours et pas en USB, mais plutôt sans fil. T'en penses quoi ? Tu penses que c'est viable, ça aussi ?
Bah, c'est compliqué, parce que c'est...
On reçoit bien la télé par fil aujourd'hui.
Non, mais t'as raison. Mais alors, le truc, c'est qu'il va falloir qu'il y ait pas mal de choses qui changent, parce que du coup, ouais, tu parles de la démo. Steve Jobs a fait une démo d'un iMac connecté sans fil à Internet. Alors ça, c'est vrai que c'est assez fort. C'est un format, enfin, c'est un protocole qui s'appelle 802.11b, je te jure, quel nom. et ça remplace le câble Ethernet, en fait. Donc ça veut dire que tu peux te connecter comme si tu te connectais avec un câble Ethernet, mais t'as pas besoin de câble, tu peux utiliser juste les ondes radio, quoi. Alors c'est génial, mais il faut quand même un truc qui fasse le réseau sans fil, d'après ce que j'ai compris. C'est pas un modem, ça remplace pas le modem, tu sais, nous, on met notre modem sur port serré, ou plus tard sur port USB, mais du coup, on le branche directement au téléphone. Mmh. Alors que là, il faudrait qu'il y ait une espèce il faudrait qu'il y ait un routeur, en fait, hein, Ethernet, enfin, routeur Wi-Fi. Enfin,
Wi-Fi,
routeur,
ouais.
Ouais, voilà, comme qui
remplace le routeur Ethernet, en fait.
Et donc, il faudrait qu'il y ait un espèce de bloc, tu sais, que t'es, qui fasse le 802.11b, là, de toute la maison, et qui soit branché à la prise téléphonique. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on a, quoi, tu vois. Donc, pour l'instant, on se branche direct, en fait. Donc, il faudrait que le modem, au lieu de se brancher directement au truc, il soit une espèce de boîte et qu'il fasse des ondes radio. Écoute, ça a l'air prometteur, parce que quand même, c'est, pouvoir se connecter sur son portable un peu où on veut, c'est vrai que c'est un petit peu le rêve, quoi.
Tu penses que c'est pas un peu facile, cette histoire ? Enfin, j'imagine, tu vois, il y a plein de cas précis, que si on pouvait être amené à tester, où on verrait, dès qu'on allume la radio, ça marche plus, enfin, tu vois, des trucs un peu bizarres.
Ouais, ou le micro-ondes, ce style.
Ah, le micro-ondes, ouais, c'est chiant.
Mais
ouais.
Ça, c'est bien possible. Ouais, genre, je sais pas, mais c'est vrai que c'est super prometteur. Bon, d'une manière générale, la nouvelle gamme Apple a été vachement simplifiée, puisque globalement, il y a quatre trucs, quoi. Il y a pour les consommateurs, il y a les iMac et les iBook, donc ils ont un look très spécial, mais très coloré, en tout cas.
On aime ou on n'aime pas, mais voilà, enfin, moi j'aime pas.
Et puis pour les pros, il y a les Power Mac et les Power Book, qui sont quand même beaucoup plus sobres. Ouais. Bon, c'est des machines qui sont quand même assez puissantes, t'as toujours ce Power PC, hein, donc c'est des trucs IBM. C'est bon, écoute, au moins c'est lisible, voilà, c'est pourquoi pas, quoi.
Je trouve que le Power Mac, pour le coup, il a un bon compromis entre design futuriste et en même temps pas ridicule, comme ça peut être le cas pour les iBook et compagnie, quoi. Enfin bon, après c'est que mon avis, évidemment. Et pour les serveurs, ça avance de leur côté ?
Bah, tu sais, quand on entend parler du successeur de macOS 9 depuis un petit moment, hein, que les technologies Next, hein, rachetées par Apple, ne vont certainement pas aller à la poubelle. Hein. Donc depuis mars, aux États-Unis, Apple vend macOS X, ou macOS 10, je ne sais pas trop, c'est macOS X,
on va dire
version serveur. Une sorte de Windows NT, finalement, mais d'Apple. Donc c'est super cher, hein. Pour 5 000 $, tu peux avoir un serveur pour Air Mac G3 avec 256 mégas de RAM, 9 gigas de disque dur et macOS X serveur. Donc une grosse bête. Bon, le noyau de macOS X, par contre, ce sera donc une sorte de noyau Unix à la base, c'est une version modifiée de BSD, qui s'appelle Darwin. Et le code source de Darwin est open source. Il vient d'être publié sur le site d'Apple. Donc n'importe qui peut l'utiliser, l'améliorer, quoi. Donc c'est pas mal.
D'accord.
Je trouve que c'est un bon move quand même. Hein. Donc pour le moment, Mac OS X n'a pas encore d'interface graphique à lui, qui peut être utilisée en ligne de commande ou sur un serveur X Linux.
Bon, ça suffit pour un serveur de toute façon.
Enfin... Pour un serveur, exactement, ça pose pas de soucis. Après, évidemment, s'ils veulent remplacer Mac OS 9 par Mac OS X ou Mac OS 10, ben, ouais. Du coup, il va falloir qu'ils leur filent une bonne interface graphique, on ne sait pas trop. En tout cas, ça fait un gros changement de perspective hein, quand cet OS donc, X deviendra grand public, parce que en fait, c'est exactement comme si Windows 98 était remplacé par Windows NT, tu vois. Ce serait un peu bizarre parce que c'est pas tout à fait les mêmes usages, quoi, tu vois.
Non, c'est plutôt NT, un côté grand public et l'autre côté plutôt des besoins
pro,
un peu pro, administration.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est quand même intéressant cette histoire d'open source. C'est vraiment sympa.
Moi, de toute façon, je ne jure qu'avec Windows. Hein. De toute façon, quand je vois à quel point ça tourne bien, bon, parfois il y a besoin d'ajuster un petit peu les choses, mais enfin bon, j'en suis content moi. Au niveau de, tu avais noté des choses autour d'AOL et de Microsoft là, qui seraient parés pour Internet.
Bah, tu sais qu'AOL est super puissant en ce moment, il fait feu de tout bois et ils ont lancé IM, c'est AOL Instant Messaging, qui a déjà 25 millions d'utilisateurs. Donc c'est et ICQ et d'ailleurs appartient à AOL aussi. Donc il y a déjà 38 millions d'utilisateurs sur ICQ, quoi. Donc c'est quand même énorme. Et du coup, bah, Microsoft aimerait bien se lancer un petit peu sur la messagerie instantanée, comme ça. Et donc ils ont lancé un truc qui s'appelle Microsoft Messenger Service, donc MSN.
Ouais.
Donc c'est un service qui est similaire globalement et qui en plus est compatible avec les messages du logiciel AOL.
Alors, d'accord, ok, ils ont récupéré le fait de pouvoir échanger des messages chez AOL, quoi.
Ouais, mais bon, après c'est un peu normal de faire une messagerie où tu peux, tu vois, enfin sinon c'est pas très très pratique, quoi. Il faut être soit sur ICQ, ouais, soit sur IM. Et bon, MSN donc est compatible. Alors du coup, forcément AOL est pas content et la riposte s'est pas fait attendre puisque AOL a modifié son propre système. Il s'est arrangé pour que les messages de MSN soient bloqués. Donc qu'est-ce qui va se passer? Microsoft acceptera-t-il de se faire claquer la porte au nez? Ben, je sais pas, mais on va voir. Écoute, sur le terrain de l'abonnement Internet, en fait, Microsoft pourrait avoir un truc à jouer, puisque évidemment, AOL est un provider assez en vue. Ce serait vraiment très très intéressant que Microsoft justement l'attaque par ce biais en proposant des formules super, super intéressantes. On va voir. Écoute, ouais,
tu penses que c'est vraiment un terrain d'avenir, ça peut, enfin, tu penses vraiment que les gens qui se connectent à Internet ont envie de passer du temps à échanger des messages courts comme ça?
Ouais, écoute, ICQ, c'est assez sympa. J'ai un peu essayé. C'est assez sympa. Franchement, c'est assez
d'accord,
rigolo. D'ailleurs, on l'a testé. Bon, pas longtemps, c'est vrai, parce que bon, écoute, on se téléphone et puis on se voit, c'est vrai qu'on
ouais,
a bien assez besoin,
bien,
tu vois. Mais bon, je sais pas, peut-être quand je vais partir, ça sera peut-être aussi. Tu vois, ouais, c'est parce que peut-être on n'a pas l'usage encore, mais
ouais,
ça pourrait venir.
Quand on habite encore dans le même village, c'est peut-être pas, ouais, c'est pas la même donne. Ok, tu nous parles aussi de Office.
Oui, Office 2000, et pas Optique 2000. toujours avec Microsoft, donc hein, c'est vrai, Office 2000 est sorti cette année, franchement ça fait peur, quoi. Il y a 4 éditions, tu sais, bon, il y a toujours plusieurs éditions, mais...
ouais.
Il y a plus ou moins de logiciels.
La
mais,
Pro, la Famille, la je sais pas quoi.
Ouais, non, c'est ça. Mais alors tu sais que la version standard, elle fait 189 mégaoctets, et la version premium fait 539 mégaoctets.
Qu'est-ce qu'ils ont rajouté dedans?
Non mais laisse béton, quoi, mon disque dur, il fait même pas 500 mégaoctets déjà, je sais pas comment je vais faire. Bon, enfin, la version standard, évidemment, t'as Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Après, t'as Publisher, Access, FrontPage et PhotoDraw 2000, qui arrivent avec des éditions Business et Premium. Et bon, alors, ça part dans les 2 à 3 000 francs, et puis Office 2000, à la différence, donc d'Optique 2000. T'as pas deux éditions pour le prix d'une, hein, la version Premium, c'est les 5 000 francs. C'est
tout ça a été préparé.
Très, 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 très cher. Bon, enfin, si tu l'achètes, hein, c'est comme... parce que bon... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah déjà, oui, il y a l'évolution majeure, c'est l'ouverture sur le web. Tu peux toujours utiliser les formats doc, hein, et il est compatible avec Office 97, mais tu peux aussi
d'accord,
tout exporter en HTML, et même importer l'HTML, en fait.
Ah, carrément,
HTML
tu peux
devient,
faire des pages HTML
ouais,
avec Word, quoi.
Ouais, parce qu'avant, c'était front page, tu sais, ils en
ouais,
avaient
tout
un éditeur, déjà. Mais en fait, là, maintenant, le HTML devient pratiquement un format natif Office, quoi. Il y a même un éditeur de frame dans Word, comme dans front page. Et donc, bah oui, l'éditeur de pages web d'Office se modernise globalement. Il possède d'ailleurs une version serveur qui permet d'éditer les pages web directement dans Internet Explorer 5. Bon, alors, il est capable de plein d'autres trucs. Il peut aussi s'auto-réparer, par exemple. Là, s'il manque un fichier critique, et bah, tu mets le CD et ça repart. Bon, Office 2000 est cher. C'est vrai que pour le grand public qui n'a pas à publier sur le web constamment, bah, ça ne vaut pas des masses le coup. Quoi, hein. Surtout pour une suite bureautique qui est carrément obèse, il faut quand même le dire. En tant que particulier, je pense que tu peux te rabattre facilement sur la suite Works, qui est en version 4.5. Ça coûte dans les 500 francs. Et puis, c'est tout un an. C'est le même logiciel. Donc, du coup, ça permet d'économiser la mémoire. Au moins, ça marche sur tout. Tu te rends compte que 6 mégaoctets de RAM suffisent. C'est dire.
Ouais.
Bon, alors après, voilà quoi. Moi, je vois que Office devient vraiment prépondérant. Il n'y a pas trop de. Alors, il y a des concurrents. Il y a Lotus hein, qui fait Smart ouais. Suite, avec Lotus Word et Lotus 1, 2, 3. Puis il y a Corel aussi. Alors, avant, c'était Borland qui faisait Quattro. Et puis, mais Corel a racheté Quattro. Et donc, ils ont Word Perfect aussi. Du coup, ils ont une suite. Bon, c'est des concurrents vraiment sérieux, mais j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à s'imposer plus que ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de concurrence sur ce secteur. Plus de logiciels abordables aussi, voire gratuits. Il y a une suite bureautique gratuite. Bon, ce serait génial. Bon,
ouais, ce serait top. Ouais, tu parlais de la publication de pages HTML. Enfin, moi, j'ai entendu parler de. Mais c'est hyper spécialisé. Hein. Il y a une boîte là qui est en train de, a priori, de bien développer ce créneau-là. Ça s'appelle Macromedia. Ils ont lancé un logiciel. Ça s'appelle Dreamweaver. Donc, ils ont lancé la première version en fin d'année dernière. Là, ils en sont à la version 1.2 et bah, ça te permet, comme tu le disais avec Word, hein, mais de créer des pages web. Et a priori, ceux qui ont besoin de se créer des pages HTML préfèrent utiliser ça. Ça a l'air assez génial, quoi. Je sais pas si t'avais entendu parler, mais c'est impressionnant.
Ouais, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Ça a l'air c'est un petit peu trop lourd pour moi. Et puis bon, c'est vrai que je me suis pas trop à fond. Mais il faut dire que FrontPage, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus bon. C'est bien, mais Dreamweaver a l'air assez puissant, hein, ça a l'air assez cool.
Ouais, ça a l'air de permettre de faire pas mal de choses en termes de, notamment de mise en page. Bon, bah du coup, tu disais que tu vas changer d'ordinateur alors ?
Bah ouais, il est vieux, alors je sais pas trop par quoi le changer, je vais partir donc à la fac l'année prochaine.
C'est un sacré budget en plus !
Le renouveler. Bah ouais, c'est quand même pas mal, ouais, surtout que si je prends un portable, ça va me faire au minimum 10 000 francs, quoi, mais si je prends un fixe, à la limite, je peux en sortir avec, je sais pas, 6-7 000.
Ouais, ça sert à rien de te prendre un portable, non ?
Bah ouais, mais c'est vrai que si je dois bouger un peu, tu sais, que je vais revenir, tu sais, juste pour le linge.
Ah oui, bien sûr, ouais.
J'étais obligé de revenir.
Ah, t'as pas besoin de ton ordinateur tout le temps non plus.
Ouais, c'est pas faux. En tout cas, il y a l'embarras du choix, hein, parce qu'en plus d'avoir le choix chez Intel, il y a AMD qui devient très crédible.
Ouais, j'ai entendu parler de ça, effectivement, ouais. Ça commence à être une alternative plutôt sérieuse, alors ?
Bah ouais, les K6 ont toujours été des alternatives low cost plutôt sympas, mais bon, question perf, hein, surtout en calcul flottant, c'était pas ça non plus. Mm-hmm. Alors, le K7 arrive, c'est toujours intéressant de voir des tests d'ailleurs là-dessus. Il faut les tests du nouveau K6 parce qu'il y a un K6 2. Alors, un K6 2, c'est quoi ? Bah, c'est un K6 avec un cache de niveau 2 de 256 kg. Alors on sait à quel point le cache c'est important. Il suffit de se souvenir des premiers Celeron. Les premiers Celeron n'avaient pas de cache L2. Et c'était catastrophique pour les perfs, c'était vraiment, vraiment atroce. Mmh. Alors que là, le Celeron 300A, c'est quand même le petit chouchou aujourd'hui, faut avouer. Il a un cache qui est plus petit que le Pentium, mais il est aussi plus rapide. Et du coup, il tient carrément la dragée haute au Pentium 2, donc voilà, honnêtement, c'est vrai que c'est une excellente affaire. Alors, il y a le K6 3 aussi, qui c'est pareil, hein, il tient le coup face au Pentium 2 et Pentium 3, même si globalement, il reste un peu en retrait, surtout sur le calcul 3D, hein, quoi, les calculs lourds. Après, ouais. Tout dépend du prix, quoi, c'est toujours ça. Alors, bon, il y a le Pentium 3, évidemment, qui vient de sortir, le fameux 4 mailles. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Ben, ils sont encore chers, et on commence à avoir des PC Pentium 3 quand même qui arrivent, hein, mais honnêtement, pour moi, ça reste du P6, quoi, tu vois, c'est toujours pareil, mm-hmm. C'est un peu le Pentium Pro. L'architecture n'a pas énormément évolué, tu sais, il y a eu les Pentium Pro, puis après il y a eu l'ajout du MMX sur les Pentium 2, bon ben ça a été... en gros, ils ont relabelé ça Pentium 2 avec des fréquences supérieures, et tu te souviens, entre la différence entre Pentium et Pentium MMX, bon, il n'y en avait pas en fait, hein, à moins que tu utilises spécifiquement ces instructions-là, ben là c'est pareil, avec 4 mailles, il y a les KNI, les 4 mailles New Instructions. Et bon, c'est le code. je rigole. En plus, il y a un autre truc qui est dans le Pentium 3 et qui n'est pas super génial. Il y a un code barre. Tu sais que je rigole à peine. Hein. Intel a inclus un numéro de série dans chaque Pentium 3.
Ouais.
Ça
unique,
permet d'identifier individuellement chaque puce. Ah, ça n'a pas été très bien reçu. C'est une tentative de flicage. Ouvertement, quoi. Bon, il y aura une option dans Windows pour empêcher le logiciel de lire le numéro, mais enfin quand même, j'espère que ça va pas se généraliser, parce qu'il faudra quoi ? Il faudra une carte grise aussi bientôt, quand même. C'est quoi cette histoire ?
Ouais, ça m'étonnerait que ça se développe vraiment comme ça, le flicage intempestif. Je pense que ça gonflerait un peu tout le monde de toute façon. Ouais, j'ai entendu parler d'une pratique là. Moi, je n'oserais pas m'y frotter. Franchement, j'aurais vraiment trop peur quand je vois les montants qui peuvent commencer à être associés à ce type d'achat. Enfin, je pense qu'on n'achète pas un ordinateur tous les jours et du coup, j'aurais peur de m'y mettre. Mais j'entends parler de personnes qui s'amusent à augmenter la fréquence de leur processeur. T'as entendu parler de ça, toi ?
Oui, 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 bien sûr. Bah, tu sais que. L'overclocking, c'est vrai que c'est ça,
overclocké. Il se pétait, il se la pétait l'autre jour, le mec qui m'a parlé de ça. Ouais, j'overclock, comme ça.
Bah, tu te souviens sans doute que le Pentium 2 sur slot 1, c'est un gros stack que tu rentres verticalement à la carte mère. Mm-hmm. C'est comme une carte d'extension. Mm-hmm. Et c'est un peu parce que ça en est une, en fait. Hein. C'est une grosse carte d'extension parce que dans la boîte, il y a deux die. Il y a le CPU proprement dit et c'est 256 kilos de cache L2. Alors le cache L2 il est assez loin, il chauffe aussi pas mal, et donc si on overclock le processeur, bah, il est pas aussi bien refroidi quoi. D'accord. Ça limite les possibilités d'overclocking du P2. Donc le P2 était pas très bon pour l'overclocking, par contre sur le Celeron, le cache est interne, il est sur le die, donc il refroidit pareil que le CPU. Donc si on a une bonne ventilation, bah écoute, le sky is the limit quoi. Enfin, bon, sky non, faut pas exagérer. En fait, tu peux quand même monter à 450 MHz.
Ouais, quand même.
Et ça, rien qu'en modifiant les multiplicateurs de la carte mère. Par switch, ou s'il y a switch, ou alors directement dans le BIOS pour les plus récentes. Alors du coup, bah, tu te retrouves avec un Pentium 2 400, ou presque, hein, pour le prix d'un Celeron 300, soit entre quand même 3 et 4 000 francs d'économie.
Donc, ouais, c'est une énorme économie, cool. Ouais. J'aurais peur quand même, je te cache pas. Hein.
Il faut une carte mère avec une fréquence de base à 100 GHz, donc tu peux pas faire ça avec tout, ouais. Il faut pouvoir monter le voltage un tout petit peu, parce qu'il faut passer à 2,2 V. Alors, tu peux aussi overclocker des machines plus vieilles. Hein. Ça marche pas si mal, mais pas forcément bien sur toutes les puces. Tu vois, le Pentium 200 MMX peut monter à 250 MHz. Bah, c'est quand même 25% de mieux, hein, et c'est quasi gratos. Un Pentium 2 266 peut quand même aller jusqu'à 333. C'est quand même pas trop mal.
Ça augmente, ouais.
Mais bon, le deal du Celeron, c'est vrai que c'est imbattable, quoi. Ouais. Alors, évidemment, il n'a pas les KNI, je suis sûr que ça va devenir vital dans les prochains moteurs 3D, quoi. Parce que tu sais que le Pentium 3, évidemment, il part quand même à 500 MHz, je crois. Donc forcément, ouais. Ça va être un peu plus rapide qu'un Pentium 2 à 450 déjà. Mm-hmm. Et bon, l'important, c'est de bien voir que son point fort, c'est le calcul vectoriel, quoi. Les fameuses KMI, en fait, c'est des instructions qui utilisent des registres de 128 bits. Tu sais que le MMX, ça fait 64 bits, et le KNI, ça fait 128 bits. Et ça peut servir à des calculs en virgule flottante en plus, alors que le MMX, non. Du coup, bien optimisé, il y a des applis qui peuvent aller 4 fois plus vite que sur Pentium 2. Ouais. C'est quand même assez énorme. Hein. Oui. C'est la théorie. Il y a un dossier de PC Force qui montre des gains qui sont entre 10 et 60% selon le cas dans la vraie vie. Quoi. C'est déjà pas mal, puisque c'est un début en plus. Hein. Et bon, KNI, c'est ce que le MMX aurait dû être finalement. Tu vois. Et c'est la réponse d'Intel. Qu'Intel a été forcé d'amener au 3D Now d'AMD, hein, qu'il a introduit avec CK6, CK6-2, etc. Là. Du coup, bon, c'est intéressant. Il y a l'Athlon aussi qui arrive et qui est très très prometteur, hein, puisqu'il va avoir du NNC 3D Now qui, à mon avis, sera à peu près équivalent au KNI. Bon, tout ça, c'est quand même une aubaine pour les moteurs 3D, hein, puisque évidemment, tu sais que c'est le processeur qui s'occupe des transformations géométriques. Mm-hmm. Bon, ouais, vas-y. Oui, parce que tu sais, les cartes 3D, finalement, c'est finalement des super évolutions des cartes 2D qu'on a depuis 5 ans au moins, quoi.
Ouais, ça explose en ce moment. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, dans les rayons, ça commence à pulluler, non?
Oui, oui, il y en a plein. Bah, tu sais que les cartes comme celles de Cirrus Logic qu'on a dans ma machine, elles s'occupent déjà d'accélérer les fonctions GDI, la souris, etc. Parce que bon, tu t'as certainement eu... En tout cas, t'as une Cirrus Logic, toi, non, je pense, dans ton truc,
ouais,
t'as des cartes 3D.
Ouais. Ah, non, pas du tout.
Non, t'as pas de carte 3D. Oui, en fait, t'as pas de carte 3D, mais t'as quand même une carte graphique qui ne se contente pas d'afficher directement ce qu'on lui dit, quoi, parce qu'avec les interfaces comme Windows et tout, c'est plus gérable. En fait, tu sais qu'avant, au tout début, hein, le processeur se tapait tout. Quand tu voulais afficher un rectangle, ben c'est lui qui, dans la mémoire, écrivait tous les pixels.
C'est plus du tout comme ça que ça marche ?
Non, c'est plus du tout comme ça que ça marche, depuis longtemps. Attends, tu sais que les... T'imagines bien que tracer une droite, c'est casse-couille, quoi. Il faut suivre tous les points de la droite, il faut écrire tous les pixels. Et en fait, c'est le processeur qui écrivait tous les pixels. C'est le processeur qui écrivait tous les pixels d'un rectangle plein, il écrivait tout. Voilà. Et c'était une perte de temps terrible. Évidemment, si t'as des trucs avec des fenêtres et tout, c'est atroce. T'imagines, quand tu bouges le curseur de la souris, le curseur de la souris, il faut déplacer le curseur. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le curseur, il faut écrire les données du curseur à un endroit, le virer d'un autre endroit, etc. Enfin, c'est un boulot très très chiant. très très inutile. Et du coup, ça fait longtemps que les cartes sont des cartes d'accélération de 3D en fait, comme les Cirrus Logic que j'ai, bon, mais, ou d'autres. Mais
ils c'est vrai que chargent toute la partie graphique, quoi.
Exactement, en fait, Windows a le GDI. Donc c'est un moteur graphique en fait, hein, où t'as des primitives graphiques. Ces primitives graphiques, bon bah s'il y a une carte accélératrice 2D, bah il dit à la carte accélératrice 2D, bah écris, fais-moi un rectangle de là à là et plof, c'est fait, de telle couleur. Fais-moi une ligne de là à là et plof, c'est fait, couleur. Et fais-moi du bleeding comme sur Amiga, hein. C'est-à-dire tu peux déplacer des sprites en fait. Bon, c'est pas vraiment des sprites, ça peut être des sprites ou ça peut être juste de copier des données graphiques d'un endroit à un autre. Mais rien que ça déjà, faire du bleeding pour le curseur de la souris, avoir un support du curseur de la souris hardware, ça libère un temps fou pour le processeur, puisqu'il c'est pas lui en fait qui déplace le curseur de la souris. Le curseur de la souris, il est déplacé par la carte graphique. Le Windows, il dit juste à la carte graphique, affiche le curseur de souris à tel endroit. Et c'est fait, et c'est tout. Donc t'imagines le gain de temps, quoi. Ce serait, si t'as pas de pilote pour ta carte 2D, tu vois une énorme différence en réalité.
Donc, et on nous parle justement des bibliothèques graphiques, là, en tout cas sur Windows, on nous parle de l'arrivée très très bientôt là, de DirectX 6, enfin ça augmente à chaque fois là, les versions. Alors ça c'est quoi, ça exploite directement les cartes graphiques justement, les DirectX par exemple?
Oui, mais les cartes 3D. En fait, GDI exploite les cartes 2D, et finalement, les cartes 3D, elles font pas énormément plus de trucs. Elles font des trucs assez ciblés, hein, encore, hein, puisque globalement, qu'est-ce qu'elles font? Tu sais, une carte 2D, ça peut faire des polygones déjà. Hein. Je veux dire, tu peux faire. Ouais, tu dis, ben dire une carte 2D, fais-moi un triangle là, plaf, plaf, plaf. Bon, bah, il écrit le triangle de telle couleur. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas faire, par exemple, des dégradés, et puis surtout, elle ne sait pas plaquer une texture dessus. Et, tu ne peux pas lui dire. T'as un fichier texture, tel vertex, donc tel sommet correspond à tel point de la texture, et après, vas-y, remplis avec la texture, quoi. Ça, ils savent pas faire.
Et en si tu veux faire la tête de Néo sur une pyramide, ils savent pas faire, quoi.
Non, mais sur une pyramide, ils connaissent pas la pyramide. De toute façon, les cartes 3D non plus, elles connaissent pas la pyramide en réalité. Ouais. Mais le truc, c'est qu'une carte 3D, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les polygones déjà transformés et ça va les afficher à l'écran. Alors, parce qu'il faut voir que quand tu as une scène 3D, en fait, tu as des polygones en 3D qui font, je sais pas moi, il faut une voiture, il faut la tête à quelqu'un, bon, on s'en fout, la tête à Lara Croft, bon. Tout ça, c'est des polygones, c'est des triangles, c'est des assemblages de triangles, en gros. Ces assemblages de triangles, ils sont en trois dimensions, donc il faut faire deux choses, hein, globalement. Il faut les éclairer, donc les éclairer, ça veut dire que t'as, dans un point de l'univers, tu as une lumière, et cette lumière, elle va éclairer certaines faces d'une certaine manière, donc apporter une certaine quantité de lumière, donc ce sera plus ou moins éclairé selon l'orientation.
Selon l'orientation, oui.
Ou bien pas éclairé du tout, bon, et puis après, une fois que tu connais l'éclairage, ce qu'il va falloir faire, c'est l'afficher, donc ça veut dire qu'il faut transformer le polygone dans l'espace pour qu'il soit face à la caméra, appliquer la perspective, et après...
Et donc il arrive à plat, en fait,
ça résulte, voilà, il en résulte un triangle, un triangle, ça se transforme en un triangle, donc ça résulte en un triangle plat, et ce triangle plat, il faut l'afficher sur l'écran. Ouais. Et en réalité, une fois que tu as les informations de transformation, c'est-à-dire le triangle plat affiché sur l'écran, les coordonnées, et les données d'illumination, à quel point est illuminé ce triangle, et les données de texture, après, il faut l'afficher, ça. Et c'est ça que fait une carte 3D, c'est-à-dire qu'elle affiche le triangle qu'on lui demande, avec telle couleur, enfin telle texture, et telle texture éclairée de telle manière. Et elle va faire aussi ce qu'on appelle du shading, hein, c'est-à-dire le shading de Gouraud, par exemple, où en fonction des couleurs des vertex, elle va interpoler les couleurs, c'est-à-dire la lumière et évidemment les textures, à l'intérieur du triangle. Tu vois ce que je veux dire,
c'est-à-dire, ouais.
Donc tout ça, c'est des trucs qui sont relativement... compliqué, on va dire, mais tout ça, c'est de la 2D. En fait, les cartes 3D, elles font que de la 2D. Parce que les processeurs... Bah, c'est pas qu'elles trichent, c'est qu'elles sont pas capables, quoi. Elles savent pas faire. C'est tout. Ce sont des cartes 2D qui ont surévolué, si tu veux, pour gérer les textures, pour gérer du shading, pour gérer un certain nombre d'autres trucs. Attention, il y a quand même d'autres fonctionnalités, parce que il y a il y a beaucoup de trucs qui sont utilisés. Par exemple, il y a le Z-Buffer, comment c'est arrivé les stencil buffers et ce genre de trucs. Ça, tout ça, c'est des fonctions qui peuvent être assez évoluées, mais fondamentalement, le passage de la 3D à l'écran, c'est-à-dire les calculs en trois dimensions, se font par le processeur. Et c'est pour ça que les KNI sont aussi fondamentales, parce que quand tu as des registres donc de 128 bits, comme c'est le cas dans les Pentium 3, eh ben, tu peux prendre un vertex, enfin, un vecteur directement, et faire du calcul vectoriel, du calcul matriciel de manière beaucoup plus rapide. Et c'est très très important pour les moteurs 3D, quoi.
Mais ça c'est juste pour les ordinateurs ou tout fonctionne comme ça? Parce que, par exemple, tu te rappelles, on était allé voir en février Mille et une pattes là, qui était sorti au ciné. Enfin, moi j'avoue que je suis assez fan de ces films là en animation 3D, mais ça marche pareil dans le calcul de ces images là ou là tu me parles juste de la manière dont ça fonctionne les ordinateurs aujourd'hui?
Non, mais bah alors là je te parle de comment ça marche en temps réel. En fait, Mille et une pattes, il est précalculé.
Ah,
mais
oui,
globalement,
d'accord.
Ça fonctionne un petit peu pareil dans le sens où il y a quand même une étape de transformation, une étape d'éclairage et après une étape de rendu. Et
d'accord.
De rendu,
mais comme ça interagit pas en temps réel et que le truc est précalculé, ils peuvent effectivement plus travailler.
Ouais. En fait, alors il y a des parties. Enfin. La plupart, en fait, des parties de Mille et une pattes, je pense, c'est des parties qui sont rasterisées, qui sont faites avec du rendu qui est assez proche des rendus temps réel, mais en meilleure qualité, quoi, très très haute qualité. Il y a des parties qui sont faites de manière totalement différente en ray tracing, mais elles coûtent tellement en termes de temps de calcul que c'est limité à certaines parties, à certaines scènes, si tu veux,
Tu nous rappelles rapidement le ray tracing, ce que c'est?
Bah, tu sais, c'est ce que fait Pauvray, hein, depuis, je suppose que on a tous utilisé, essayé Pauvray, je pense, à un moment ou à un autre, quoi. Pauvray, bon, bah voilà, ça met 2h30 à t'afficher une boule en miroir sur un sol en damier, quoi, tu vois. C'est, bon. Bah, qu'est-ce que ça fait le ray tracing? Ça permet de gérer des trucs que ne savent pas gérer les cartes 3D normales. Alors, c'est des trucs évidents, hein, par exemple. T'as vu comme j'ai décrit le fonctionnement d'une carte 3D?
Ouais.
Les polygones, ils sont transformés, éclairés,
ils sont placardés.
Ouais. Jamais j'ai parlé d'ombrage, c'est-à-dire d'ombre, d'ombre portée. Comment tu calcules le nombre porté? T'en as aucune idée.
Ah, tu fais des faux placardages de polygones à d'autres endroits, non?
Ouais, tu utilises des shadow maps, par exemple, ou alors tu te débrouilles, mais c'est vrai que tu fais des...
Tu triches.
Oui, tu triches toujours. Tu triches toujours, c'est pas possible. Du coup, quand tu veux avoir des ombres fidèles, il faut suivre les rayons lumineux. Suivre les rayons lumineux, c'est un truc de fou parce que ça veut dire qu'il faut, pour chaque pixel de l'écran, suivre le rayon jusque...
Ouais, d'accord.
Tu prends un pixel de l'écran,
tu
envoies le rayon et il rebondit dans la scène et après, une fois qu'il a atteint la source de lumière, tu vois quelles sont les contributions et donc quelle couleur a le pixel de l'écran. Faire ça pour chaque pixel de l'écran, il faut envoyer plein de rayons, du coup ça coûte un temps de fou. Et t'imagines, pour Mille et une pattes, s'ils devaient avoir, vu la qualité, s'ils devaient tout rendre en ray tracing, mais ça leur prendrait 10 fois plus de temps.
Donc ils ont sélectionné des parties, ok.
Il y a des parties qui sont, je sais pas si j'utilise Renderman ou je sais pas si c'est eux qui utilisent Renderman, des truc de chez Pixar qui utilise Renderman. Ouais, si,
d'accord.
C'est Renderman. Okay. Renderman, il peut faire les deux. C'est-à-dire, il fait de la rasterisation en utilisant des micro-polygones, ou alors, sur certaines parties, ils peuvent utiliser le ray tracing, mais je pense que ça reste minoritaire quand même.
Ok. Ok, écoute, très bien. Donc, du coup, tu nous décrivais tous ces fonctionnements-là, mais donc, grosso modo, c'est la guerre, c'est ça, pour les cartes graphiques?
Ouais, la 3D est en feu, là. On a le choix entre une pelletée de cartes, hein, donc les TNT Venta, les TNT 2, donc les Nvidia, puis il y a les Voodoo 3 de 3DFX, il y a les Savage 4 de S3, puis il y a les Rage 128 de ATI, et puis surtout il y a la G400 de Matrox. Alors bon, le plus drôle c'est que dans 6 mois, peut-être qu'elles seront toutes obsolètes, on ne sait pas, mais bon, pour le moment en tout cas, si un truc se profile, c'est que les cartes sont de plus en plus sophistiquées et que l'heure de gloire des 3DFX ça semble un petit peu passé, quoi.
Et du coup, toi tu t'orientes vers quoi pour ton ordinateur si tu devais te prendre une carte? J'imagine bien que tu vas te prendre une carte graphique comme ça.
Bah moi je vais certainement prendre une carte graphique, mais par contre je sais pas trop au niveau des prix, ça va être un peu compliqué parce que j'attendrai volontiers la prochaine gen, mais du coup ça va être très cher, quoi. Bon, 3DFX au niveau des perfs bruts ça va, c'est pas trop cher. Au niveau des fonctions par contre c'est la dèche, quoi, tu vois. Maintenant le rendu 32 bits se généralise comme dans Quake 3, hein, par exemple, qui va arriver là.
Ouais.
Il n'y a pas de filtrage anisotrope, les tailles de texture sont faméliques, 256x256, alors que bon, sur les dernières cartes, c'est 2048, quoi.
Ouais, ça a rien.
Bon, il n'y a pas de stencil buffer, c'est quand même dommage. Ça permet de faciliter pas mal les trucs. Et bon, puis ses concurrents rajoutent des fonctions en plus, hein, ils tentent d'établir de nouveaux standards. ATI rajoute le décodage MPEG-2 en hard sur les RAGE 128.
Ah, d'accord, ok.
Et ouais, quand même. Ça compte, quoi. S3 introduit un algo de compression d'ailleurs qui s'appelle le S3TC, qui est vraiment pas mal. Ça divise par 6 la taille des textures, et tu vois pratiquement pas la différence.
Et, oui.
Et donc, quand t'as 32 mégas de RAM, c'est pas mal, hein, des textures.
Ouais, quand
en
c'est compressé comme ça, ouais.
Et 2048, ça fait quand même pas mal, quoi, comme truc. Alors, bon, Matrox, c'est la Rolls, hein, donc c'est une très bonne qualité de rendu, les performances très très honorables et tenues en 32 bits en plus. Hein. Ouais. Ça arrive à 40 FPS sur Quake 2 en 1024x768 en 32 bits. Bon, c'est fou, c'est assez incroyable. Génial. Bon, pour peu qu'on ait un PC qui va avec, évidemment, mais bon.
Ouais, c'est toujours pareil.
Bah, comme j'ai dit, hein, toute cette géométrie ne va pas se transformer toute seule. Et bon, okay. En plus, Matrox est la seule à supporter le bump mapping.
Alors, qu'est-ce que c'est que le bump mapping ?
Alors, le bump mapping, c'est une manière de rajouter des détails sur un modèle 3D qui n'en a pas beaucoup. Tu sais que les textures, ça modifie la couleur. Ouais. Par exemple, tu prends une pierre, bah, une pierre, elle a la couleur de la pierre, quoi. Bon, voilà, donc tu projettes une texture de pierre dessus, mais ça reste la géométrie et les déformations, quoi, elles sont données par les polygones.
Ouais.
Alors qu'avec le bump mapping, tu peux rajouter une texture, donc une deuxième texture, et cette texture-là,
du relief.
Elle donne du relief, exactement.
D'accord. Tu peux faire les narines de Lara Croft, quoi.
Ouais, tu peux faire les pores de la peau, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Ça, artificiellement, si tu veux, ça perturbe la normale, en fait, de l'objet. Et bon, ça vient d'arriver dans DirectX 6, et donc tu rajoutes des détails. C'est, voilà, bon, les jeux de l'an 2000.
Et c'est des vrais détails en relief, quoi. Ou c'est des effets visuels?
Bah, ça revient un peu au même, si tu veux.
C'est-à-dire, si tu prends un polygone, ouais. Tu lui appliques dessus du bump mapping pour qu'il ait des pics creux et des bosses. Si tu regardes le polygone de côté, de sorte que tu vois pas du tout l'épaisseur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas de creux et de bosses qui sortent d'un côté et de l'autre du polygone. C'est juste un artifice visuel, c'est ça que je veux dire.
Oui, c'est un artifice visuel, oui, effectivement. Ça ne rajoute pas de détails géométriques, pas du tout. Non, c'est des détails visuels, complètement, exactement. Okay. Donc ouais, écoute, je sais pas, 3DFX est en danger, donc je pense que voilà quoi. S3 tente un retour, pas mal. Il a perdu beaucoup de parts de marché vis-à-vis d'ATI hein, ces derniers temps. Mm-hmm. Bon, les TNT trustent le marché de façon, il y a la petite Venta qui aime pas mal, puis ça va jusqu'à la TNT Ultra. Hein. Après, moi j'ai pas 2000 francs à mettre dans une carte graphique pour acheter une G400, hein, surtout qu'il faut un Pentium 2 minimum pour aller avec, donc je sais pas trop. Mais tu sais que la G400, elle supporte deux écrans simultanément.
Ah la vache, deux écrans en même temps, ok. Pour jouer ?
Bah éventuellement, pour ce que tu veux.
À quoi ça sert finalement deux écrans ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de deux écrans ?
Bah, je sais pas, moi j'ai jamais essayé, mais c'est vrai que je suppose que si t'es créatif, tu sais, tu peux avoir un truc sur un écran, tu sais, le multitâche, hein, sous Windows, t'as une fenêtre sur chaque écran, quoi. Ouais. Ça peut être sympa, mais bon, voilà. Donc le choix est difficile, hein, d'autant que, comme je t'ai dit, la prochaine génération est prévue pour la fin de l'année, chez Nvidia, ils promettent un truc énorme, on verra.
D'accord, ok. Et d'autres choses sur les cartes du futur, ou est-ce qu'on a fait le tour ?
Bah, pas que je sache, hein, pas vraiment que je sache. Je te dis, l'annonce de Nvidia, ça va arriver dans pas très longtemps.
Okay.
C'est tout juste.
Bon, bah écoute, super. Tu me racontais une petite anecdote avec le PC Team, là.
Avec le PC Team ?
Ouais, le magazine.
Ouais, bah je sais. Attends, c'est lui où il parle de la.
C'est là où il y avait les démos sur le CD.
Ah oui, sur Outcast, tu veux dire ?
Ouais.
Ouais, bah oui, mais je peux rien annoncer, c'est une horreur.
Ah là là là.
Mais non, mais c'est, bah oui, mais je suis vert. Heureusement, j'ai un pote qui a un Pentium 2.
Ouais.
C'est lui qui m'avait passé une PS1 l'an dernier, tu sais.
D'accord, ouais, ok.
Et bon, il a un Pentium 2, donc il y a plein de trucs qui passent, et j'ai quand même réussi à tester un certain nombre de trucs. J'ai testé Outcast, d'ailleurs. Outcast est absolument génial, quoi.
C'est quoi la particularité d'Outcast ?
Écoute, il a un rendu qui.
On m'a dit qu'il était fait en 3D, mais pas comme les autres, j'ai rien compris.
Ben, c'est exactement ça, tu sais, tout ce que je viens de te dire sur les polygones et tout, là, ben, en fait, ça marche pas comme ça.
T'es un gros menteur, en fait, un escroc.
C'est exactement ça. Dans Outcast, ils utilisent ce qu'ils appellent les voxels. Et les voxels, alors, le meilleur exemple, c'est, je sais pas si tu connais Comanche.
Oui, d'image, quoi.
Ouais, Comanche, c'est un jeu d'hélicoptère qui marche d'ailleurs super bien sur mon PC, donc je suis content, il y en a au moins. Et donc ce logiciel d'hélicoptère, il utilise des cartes pour faire son terrain, quoi. Il utilise des cartes d'élévation, donc t'as des cartes d'altitude, puis aussi t'as une carte de couleur, et donc il utilise la carte d'altitude pour modéliser le terrain en 3D.
D'accord.
Et donc il lance des rayons, en fait, donc de la caméra, et quand il voit, en gros, il tire, c'est comme s'il y avait des espèces de colonnes, et quand ça chope une colonne, il regarde quelle est la couleur et ça donne la couleur.
D'accord.
Et donc globalement, il n'y a pas de polygone en fait. C'est tout est à baser sur des textures qui donnent le relief comme ça. Donc ils appellent ça du voxel et en fait, c'est très 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 bien adapté pour faire des terrains, pour faire des environnements naturels quoi.
D'accord.
Et ça marche super bien à Outcast. C'est exactement comme dans Comanche, sauf que c'est en vachement plus haute résolution. C'est très coloré, c'est vachement beau. Alors il y a aussi les polygones pour faire les persos, pour faire les bâtiments, quoi, tu vois, mais tout le terrain, tout l'environnement est en voxel, donc c'est vraiment, vraiment génial.
Est-ce que tous les jeux vidéo vont pas être faits comme ça, alors éviter de nous équiper de cartes 3D, du coup?
Bah, c'est compliqué, parce que, par exemple, pour faire un truc comme Quake, c'est pas très ouais. très bien adapté, quoi. Par exemple, tu peux pas faire d'intérieur, faire les intérieurs, c'est...
Ouais, d'accord, ok.
Pas vraiment, quoi.
S'adapter à certaines situations, mais pas à d'autres. Okay. Ouais. Du coup, l'accélération 3D elle reste assez obligatoire pour plein de jeux, hein, de toute façon.
De plus en plus, de toute façon, hein, moi, j'ai essayé Quake, donc moi, tout le mieux que je puisse faire, c'est Quake en rendu software, et si tu veux, c'est pas génial, génial. Je sais pas si t'as testé, il y a des trucs assez fous qui sont sortis depuis, hein. Il y a Half-Life, il y a Star Wars Racer, Dungeon Keeper 2, Descent 3...
Écoute, alors, Half-Life, je l'ai vu tourner chez un copain, on y a joué, enfin, il y a joué toute la soirée, moi, j'ai fait des cauchemars toute la nuit après, hein, j'y ai repensé, je pense que quand je fermais les yeux, je revoyais Half-Life défiler sous mes yeux, et ouais, dans Dungeon Keeper effectivement, j'ai vu ça tourner, c'est assez fun, effectivement, c'est assez rigolo de voir qu'on joue finalement un rôle qu'on n'a pas, je pense, souvent joué dans les jeux vidéo, qui est celui du grand méchant, quoi, qui gère le donjon, c'est assez drôle, effectivement, mais donc tout ça, pour faire fonctionner tout ça, moi j'ai pas le matos, hein.
Non, ben moi j'ai joué à Star Wars Racer, mais sur 64, et c'était vraiment pas mal, hein. Ça marche vraiment bien, ouais. Mais bon, effectivement, si tu veux y jouer bien, il faut une carte 3D, ça commence à devenir un petit peu obligatoire. De toute façon, les jeux les plus attendus, là, c'est quoi? Il y a Drakan qui arrive, il y a Darkstone qui arrive aussi, qui ont l'air vraiment, vraiment sympa.
Darkstone, j'ai entendu parler de ça, effectivement, ouais, avec une histoire où t'as ton personnage qui se balade avec un âne ou un mulet ou je sais pas quoi à côté, tu peux lui faire transporter des trucs, je trouvais ça trop marrant.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, je sais pas si c'est les caractéristiques que les gens vont vendre.
Ah non, plus, non, non, mais je voyais ça dans les images, je trouvais ça trop marrant.
En tout cas, il y a System Shock 2 aussi qui arrive. Moi, j'ai joué à System Shock et ça a vraiment été une claque. Hein. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cool. Bon, après, il y a Quake 3, bien entendu. Et bon, Quake 3, c'est pareil, quoi. Il va falloir une carte 3D pour y jouer.
C'est la Rolls, là.
Ça, c'est la Rolls, ouais, exactement. Ouais. Il y a déjà une démo sur Internet. Tu peux télécharger une démo de deux arènes, puisque c'est que du multi. Hein. Ça me tente bien.
Ça pèse combien? Il va te falloir combien d'heures pour télécharger ça chez toi?
Ouais, je veux même pas savoir. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas le PC, donc on verra, quoi.
Ouais, chaque chose en son temps. Ok.
De toute façon, honnêtement, je sais pas si je vais finalement beaucoup jouer sur PC, parce que tu sais que j'attends vachement la Dreamcast.
Ouais,
là, il y a eu l'E-Cube. Donc en mai dernier, il y a eu l'E-Cube. Alors c'était en 99. Donc alors cette édition 99, elle s'est déroulée à Los Angeles, au Convention Center. Ça fait 50 000 mètres carrés, quoi. C'est absolument énorme. Avant, c'était Atlanta. Et alors il y a quand même 400 exposants, plus de 2000 titres qui ont été présentés, hein, avec PC. Et il y avait plein de jolies nanas. Il y avait plein de
filles. Ah, génial.
Hallucinant. Mais c'est, écoute, il y a même des encarts dans les magazines, les plus belles filles de l'E-Cube.
Ah, c'est essentiel. C'est essentiel,
évidemment. Comment tu veux faire un bon E-Cube sans bouffe babes? C'est évidemment, quoi. Donc c'était du 12 au 15 mai.
Ouais, ouais. Au-delà des belles nanas, alors du coup, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi les faits marquants de cette E3 99?
Bah écoute, on a beaucoup parlé de PlayStation 1, quand même, la console a atteint son maximum, hein, là, elle est pas vraiment en fin de vie, parce que
elle est sortie en quelle année déjà?
Bah, c'était 95, hein, c'était
95,
okay, c'était,
ouais.
Il y a 4 ans quand même.
Ah, 4 ans quand même, ouais.
4 ans, bah ouais, et puis bon, là on attend la PS2, alors bon, on ne sait pas, la PS2 on ne sait pas, elle a été présentée il n'y a pas très très longtemps, là c'était quoi, c'était le 2 mars au Tokyo International Forum,
T'as une mémoire de fou. Ouais.
Et du coup, bon, on n'a pas vu de jeu, quoi, dessus. On a vu des démos. Ouais. Bon, voilà, ça a l'air sympa, mais on n'a pas vu de trucs et on ne sait même pas réellement quand est-ce que ça va sortir, quoi. Donc c'est, voilà, la PlayStation 1, elle est en fin de vie, mais bon, elle est encore pour un petit moment. Il y a des trucs qui ont été montrés, qui ont l'air vraiment incroyables, comme il y avait Final Fantasy VIII, quand même. Mm-hmm. Très très beau. Crash Team Racing, Fear Factor, finalement, et Resident Evil 3. Qui a l'air vraiment pas mal. Et un Gran Turismo 2 aussi. Moi, j'ai joué à Gran Turismo 1, je trouve ça vraiment très très réussi. Le 2 me tente pas mal aussi. Alors bon, évidemment, il y a eu les meilleurs jeux de l'E-Cube. À ton avis, quel est le meilleur jeu, le meilleur jeu toute catégorie, celui qui a raflé le plus de awards?
Alors j'en sais rien, mais c'est pas du côté de chez Nintendo?
Si, mais si, c'est Legend of Zelda qui a tout resté, quoi. C'est jeu de l'année, jeu d'aventure de l'année, jeu de rôle de l'année. Bon, il y a eu simulation de sport de l'année, 1080 degrés snowboarding, donc c'est encore Nintendo. Jeu d'action de l'année, Banjo-Kazooie. Bon, jeu de course de l'année, Gran Turismo, quand même, hein, faut quand même, heureusement, un petit peu. Meilleur son musique, Road Rash 3D, bon, on va savoir. En tous les cas, il y a une grosse déferlante Nintendo. Mais bon, je parle de tout ça, mais tu sais très bien, finalement, que ce qui m'intéresse le plus, c'était la Dreamcast.
Ouais, alors là, t'arrêtes pas de m'en parler. Hein.
Mais écoute, je veux dire...
Mais en quoi est-ce qu'elle est si bien que ça?
Bah écoute, elle va être extrêmement puissante. Elle va être équipée d'un processeur 32 bits Hitachi qui est annoncé à 200 MHz avec un coprocesseur arithmétique avec donc elle sera 128 bits dans le sens où comme le Pentium 3 hein, elle pourra faire des calculs sur des vecteurs comme le Pentium 3 avec ses calculs machin là sur 128 bits 1,4 gigaflop si je sais pas si t'imagines. C'est incroyable, c'est un truc de super ordinateur. Quoi. C'est un gigaflop, c'est des milliards d'instructions, d'opérations flottantes par à la seconde. Quoi. C'est 1,4 milliard, c'est un truc de fou furieux. Quoi. Et puis bon, alors un GPU NEC à 100 MHz qui va tracer plus de 3 millions de polygones par seconde.
Punaise!
Avec tous les effets là qu'on a dans les cartes les plus modernes seront gérés. Le gros shading, le filtrage trilinéaire, l'anti-aliasing, il y aura aussi le bump mapping, comme je t'avais dit. Mm-hmm. Bon, c'est, voilà quoi, je suis désolé, mais si tu compares une PlayStation 1, qui a une puissance de calcul de 30 MIPS, faut quand même pas exagérer, c'est ridicule. Une PlayStation 1, c'est 180 000 polygones texturés à la seconde. Bon, alors tu me diras, c'est voilà, ok, mais maintenant la vraie truc, la vraie console de bourgeois aujourd'hui, c'est la Nintendo 64. Mm-hmm. Bon, ben là, c'est quand même 150 000 polygones texturés par seconde. Mm-hmm. Donc là, alors évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas énormément plus. Là, avec ce qu'elle a sous le capot, la Dreamcast, elle va, elle, par contre, arriver à. Voyons voir, attends que je regarde, je ne sais même plus, tellement il y en a. 3 millions de polygones par seconde.
Ah ouais, ok.
Mais oui. Non, mais je veux dire, il ne faut quand même pas exagérer. C'est sans comparaison. 3 millions par seconde, et ça, c'est avec tout. C'est-à-dire avec gros shading, bump mapping, éclairage, ombre portée. Parce que si tu prends des rendus plus simples avec que des lumières ou des textures, on monte à 7 millions de polygones par seconde.
Ah oui, d'accord, ok. Mais par contre, elle est pas dispo demain, par contre, parce que enfin, elle est prévue quoi ? C'est pour la fin de l'année au Japon, mais ça va venir quand chez nous ?
Non, tu rigoles, elle est déjà sortie au Japon.
Ah bon ?
Elle sort en octobre chez nous.
Prévue pour le novembre 80. Ah oui, non, d'accord, ok, oui, d'accord, oui, c'est parce que.
Non,
je me trompais dans les dates que j'avais sous les yeux, tu penses bien. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, oui, je confondais 98 et 99, oui, bien sûr. Ah ben bah, donc t'as mis de l'argent de côté du coup.
Mais oui, mais en plus, attends, c'est une console qui sera facile à programmer. En plus, tu sais que Microsoft a contribué avec une version de Windows CE pour la machine.
Ah.
Et donc, la machine va supporter DirectX 6 et OpenGL. Donc, c'est comme un PC. Donc, ça sera facile. En 2D, elle va gérer jusqu'à 26 000 sprites. C'est une puissance digne d'une machine d'arcade, et c'est pas un hasard. Hein. Parce que tu sais quoi ? La Dreamcast, c'est exactement la même chose que la Naomi. Donc Sega va lancer simultanément un solde d'arcade et en salon, la successeur du Model 3, qui fait tourner donc Model 3, hein, c'est Daytona USA, Sega Rally 2, Virtual Fighter 3, Star Wars Trilogy, bon, donc c'est déjà des jeux quand même assez impressionnants en arcade. Ben, par rapport à la machine que tu trouveras dans les salles, ben, t'as juste deux fois moins de RAM dans la Dreamcast et c'est tout. Tout le reste, c'est identique. Donc, t'auras l'arcade à la maison pour de vrai.
Une console d'arcade dans ton salon, quoi. Impressionnant.
Écoute, sur le CD console de juin, on montre des images de Resident Evil entièrement 3D et pas en précalculé.
Ouais.
Une version de Sega Rally 2, Soul Calibur qui est encore mieux qu'un arcade, c'est un truc incroyable. Sonic Adventure qui ressemble à un film à l'image de synthèse, on dirait un film Pixar, quoi.
Ouais.
Il y a Velocity et Metropolis. Alors, Metropolis, je te dis, ça enterre Gran Turismo, quoi. Tu vois, vraiment, c'est impressionnant. Et il y a même un truc qui a l'air fou qui s'appelle Shenmue. C'est un truc où tu diriges un mec dans une ville avec des passants et tout en 3D, comme si t'étais en vrai. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et alors, le fin du fin, pour couronner le tout, elle a un modem intégré directement. T'as même pas besoin de l'acheter. Donc tu pourras jouer en ligne avec des gens du monde entier. Elle aura un navigateur internet et t'auras pas besoin de fournisseur d'accès. Tu te connectes, tu payes que la com téléphonique, c'est tout. Donc ça remplacerait carrément ton ordinateur.
Ah, génial.
Et il y a des accessoires déjà en prévision, puisqu'elle est déjà sortie au Japon. Il y aura un DVD-ROM qui pour contrecarrer Sony, qui lui utiliserait un DVD dans sa PlayStation 2. Il y aurait un disque dur qui permettrait de télécharger les nouveaux niveaux des jeux via Internet et des niveaux de jeux. Tu sais, c'est un truc assez incroyable. une disquette zip, et des émulateurs, même des émulateurs Saturn et PlayStation, donc c'est dire si elle est puissante, quoi, puisqu'elle pourrait carrément émuler les jeux PS1. Et donc, ben voilà, c'est pour octobre, elle est presque là, hein, alors que bon, la PS2, ça existe que sur le papier, on n'a vu aucun jeu, on ne sait pas quoi elle ressemble, pff, hein, écoute, voilà quoi. Et pour quel prix? Je te le dis, 1700 francs.
Oh, ouais, effectivement. Écoute,
ouais. Bah, c'est le prix d'une grosse carte graphique.
Ouais, non, mais franchement, quand on veut jouer, je pense que s'acheter du matériel sur PC, je sens qu'il va falloir mettre à jour tous les 6 mois. Et quand on voit le prix, effectivement, c'est carrément plus intéressant de se porter là-dessus. Avec des propositions comme ça, je vois pas comment Sega pourrait pas être premier dans l'univers des consoles de jeux dans les années à venir, de toute façon.
Bah, évidemment, attends, là, il faut se souvenir quand même que même si c'est plus cher que la 64, la PlayStation, elle coûtait 2000 balles quand elle est sortie. Hein.
Ouais, c'est moins cher. Non, écoute, je pense qu'ils vont faire un carton plein. Alors, quand même, sous réserve, on nous parle du projet Dolphin de Nintendo. T'as des infos?
Oui, le Dolphin, bah, c'est donc l'après 64. Hein. Mais bon, c'est très très préliminaire. On sait que ce serait donc un processeur qui... Donc ce serait un PowerPC 750, en fait. C'est un processeur de Macintosh, globalement, mais ce serait probablement lourdement modifié. Mm-hmm. Il y aurait 32 mégas de RAM, un GPU à 200 MHz. Bon, alors ce serait quoi en 2001? On n'est même pas sûr.
C'est pas très puissant tout ça, hein, quand on compare aux fréquences dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est vraiment les parties prises Nintendo qui sont pas de jouer sur la puissance.
On sait pas trop. Ouais, franchement, on sait pas trop. On sait qu'il y a un gros investissement de la part de Nintendo quand même. Il y a $1 milliard a priori. Enfin,
mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de si nouveau par rapport à leur console précédente? Ok, on parle de ces composantes-là, de cette ressource-là, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de différent Nintendo là-dessus?
Bah, alors déjà, il y a un truc qu'ils pourraient faire différent, c'est abandonner la cartouche.
Ah ouais, bon, il pourrait ça abandonner la cartouche, tu penses?
Ouais, ils vont être obligés à un moment.
Ils vont faire comme PlayStation alors. Ah ben, et comme la Dreamcast, du coup.
Obligé, ça me paraît obligé parce que là, on voit quand même sur la 64 qu'il y a des jeux, ils ont. Enfin, tu vois, c'est compliqué de mettre de la vidéo. Il y a plein de vidéos sur PlayStation, il y a plein de trucs de vidéo, plein d'intros.
Toi, tu penses qu'on est en train de tourner la page de la cartouche de jeu dans le monde du jeu vidéo?
Ah, ça, ouais, franchement, même les jeux commencent à être. Enfin, les jeux sont sur CD aussi, bientôt ils seront sur DVD, tu vois. Bon, là, franchement, la cartouche, ça commence à devenir vraiment difficile, à mon avis.
Ouais. Les sauvegardes, on les met dans la console.
Bah, les sauvegardes sont sur carte mémoire, ça fera des trucs à vendre, hein, comme la PlayStation. Hein. La PlayStation, c'était un super carton, en fait, aussi, de vendre
des petites cartes mémoire.
Les petites... non, ouais, c'était pas des mémoristiques, ça.
Ah bon
des,
pardon. Non.
C'était des cartes mémoire pour la spécificité, c'était des trucs spécifiques.
D'accord.
Après, moi, je pense qu'au contraire, ils vont faire l'inverse de d'habitude. Enfin, de ce qu'on sait, on sait que donc, Nintendo a beaucoup investi chez IBM pour faire un CPU assez puissant, avec une finesse de gravure de 180 nanomètres. C'est 250 nanomètres pour le Pentium 3 hein, et pour le Pentium 2 déchute, donc ce sera la prochaine génération si tu veux. Et en plus ils auront des interconnexions en cuivre. Et du coup le cuivre c'est mieux que l'aluminium, hein, ça conduit mieux l'électricité, donc ça chauffe moins. Et il y aura des fréquences qui peuvent être assez élevées, entre 3 et 500 MHz, hein, qui pourraient être dignes du Pentium 3. Donc c'est quand même très prometteur. Bon, du côté graphique, c'est RTX qui s'occupe du GPU, c'est le GPU, enfin, c'est le même que ceux de la Nintendo 64. Ça serait produit par NEC. Bon, écoute, voilà, la Dolphin pourrait être compatible avec le DD64 aussi. C'est pas encore sorti. On ne sait pas.
Ok.
Toujours est-il que, bon, voilà, on a la Dreamcast qui est déjà là, hein, depuis 10 mois au Japon. On a Sony qui pédale pour sortir sa PS2 en mars 2000, on verra bien s'ils y arrivent. Hein. Et puis bon, Nintendo, honnêtement, je pense que ça ne sera pas avant 2001. Quoi.
Bon, de toute façon, la logique, ce serait qu'ils en vendent plus que de Nintendo 64. Je pense qu'ils vont bien peser leur coup de toute manière. Je ne vois pas comment ils pourraient passer à côté. Même s'il y a Sega qui va sans doute leur prendre des parts, finalement, j'imagine.
Oui, même plus. Tu sais qu'il y a des add-ons qui sont déjà prévus.
Ah!
Et oui, parce que bon, tu sais que Sega a l'habitude de sortir plein d'addons pour ses consoles, la Mega CD ou le 32X par exemple. Ouais. Dans Console Plus, il révèle qu'il plancherait sur une Dreamcast 2, totalement rétrocompatible, avec un SH4 gravé plus fin et des power verts doublés, voire triplés, et 32 mégas de RAM en plus. Et pourquoi pas un lecteur DVD, tu vois, donc ce serait largement de quoi contrecarrer la PS2, donc ce serait la possibilité d'upgrader un petit peu comme avec une 32X, tu vois, que tu mettrais dans ta Mega Drive, là ce serait à mettre sous la Dreamcast. C'est un truc qui pourrait donc la rendre plus puissante, ça a été évoqué comme ça. Bon, elle sort bien équipée, elle pourrait évoluer au gré de la concurrence, donc à mon avis, elle est là pour longtemps. Ouais.
Ok.
Oh, écoute, c'est toujours passionnant de se retrouver tous les deux là comme les autres années, une fois l'été, pour parler de tout ce qui nous plaît dans l'informatique là. Je trouve ça assez captivant. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour, parce que là on arrive bientôt au bout de la bande de la cassette, mais il y a peut-être 2-3 trucs que tu voulais rajouter sur lesquels on n'a pas eu le temps de s'attarder.
Bon, écoute, non, ça va, ça. Je pense qu'on a bien fait le tour, à moins que tu veux. Hein. Je sais pas si tu. Toi, t'as l'impression que tu veux changer de PC, toi. Est-ce que t'as des conseils à me donner?
Alors là, j'ai certainement pas de conseils à te donner parce qu'on n'a pas du tout le budget. Puis tu sais, enfin, moi, il faut que je termine le lycée. Et je crois que mes parents me mettent déjà la pression pour que je commence déjà à mettre de côté pour le permis de conduire que je vais pouvoir passer l'an prochain. Donc, tu sais, les ordinateurs, c'est pas la priorité. C'est compliqué.
Moi, je pense que je vais me choper un truc d'occasion et peut-être que ce sera du coup un portable.
Ah ouais, ça peut être une bonne idée, ça.
Portable Pentium 2, moi je dis, ça pourrait être pas mal.
D'accord. Ouais, enfin bon, moi je suis passionné, mais tu sais, hein, je passe toujours autant de temps devant la télé. D'ailleurs, ça va être bientôt la trilogie du samedi, là, demain. C'est mon petit rendez-vous hebdomadaire. Moi, tu sais, au lieu de passer mes soirées à bidouiller les ordinateurs, j'aime toujours autant regarder la télé. Donc bon. Écoute, en tout cas, c'était top de pouvoir échanger ensemble. Allez, pour la postérité, à des fois qu'il y aurait des gens qui écouteraient cette cassette à l'avenir, est-ce que tu veux nous laisser ton numéro ICQ, peut-être? Non, je sais pas.
Ah non, tu rigoles, attends, les gens pourraient me contacter.
C'est pas l'intérêt d'ICQ.
Ouais, mais je veux pas que n'importe qui me contacte comme ça, attends.
D'accord, d'accord. Bon, ça se tient. Très bien. Écoute, moi je vais écrire notre adresse là, à laquelle on aura enregistré cette émission sur la petite étiquette de la cassette. Je vais la refermer, je vais la mettre dans la bibliothèque et je pense qu'on va bien s'éclater dans quelques années quand on pourra réécouter ça. Si ça se trouve, les choses auront bien changé d'ici là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Guillaume, de nous expliquer tout ça. Je croise les doigts pour ta constitution de cagnotte pour l'ordinateur.
Écoute, c'est toujours un plaisir. De toute façon, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Regarder le Big Deal.
Ouais. Bon, il est bien fait en 3D, justement, Bill, là. Mais bon, bref, c'est quand même pas très épanouissant. Par contre, n'oublie pas de me montrer Star Wars. Je t'avoue que je suis assez intéressé parce que j'en ai entendu du bon et du pas bon sur cet épisode 1. Allez, grosso modo, t'en as pensé quoi, vite fait?
Il y a des séquences vraiment pas mal, comme la séquence du pod là, qui est vraiment.
Elle t'a marqué parce qu'il fallait que tu changes de CD surtout.
Ouais, peut-être aussi. Non, mais elle est quand même vachement bien faite. Après, le reste, honnêtement, le scénario, j'ai rien compris.
Mince.
Il y a des persos qui sont très très bizarres et qui parlent de manière très très bizarre. Mais bon, écoute, on ira le voir ensemble et tu me diras ce que t'en penses.
Écoute, très volontiers, ouais, on va se réserver la date pour la sortie en cinéma. Ça marche, merci beaucoup Guillaume, je te souhaite une très bonne continuation, une bonne fin de vacances pour cet été. Et on garde contact de toute façon.
Évidemment, attends.
Bon, allez, à la prochaine, ciao.